c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de l'Argentine, de la Colombie, du Brésil, du Chili. Et il y aura un côté aussi pour la littérature et en fonction du temps, aussi pour la musique. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de l'Argentine et de Milei, je crois, n'est-ce pas?
Oui, de sa défaite électorale. Les électeurs de la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays, étaient appelés aux urnes dimanche 7 septembre. Avec 33% des voix, le parti du président argentin a été largement devancé par l'opposition péroniste, qui a recueilli plus de 47% des suffrages. Une défaite sans appel dans un scrutin local qui avait valeur de test à moins de 2 mois des élections législatives nationales de demi-mandat. Des mauvais résultats qui soldent des semaines particulièrement ardues pour l'effectif libertarien entre revers politiques, chute du peso et scandale de corruption. Sur les 8 députés et sénateurs provinciaux de la région de Buenos Aires, seuls 2 candidats libertariens ont été élus. En attendant, la réaction des marchés est violente. Le peso chutait de 7% face au dollar à l'ouverture des échanges, de même que les obligations d'État. Autrefois héros des plus contestataires au sein de la population argentine, le président d'extrême droite Milei retourne ce sentiment de révolte contre lui. Le désenchantement qu'il a causé s'est déjà illustré fin août lorsque l'élu libertarien a été la cible de jets de pierre et de bouteilles lors d'un défilé. C'est maintenant au tour de son parti de subir les conséquences de sa politique ultralibérale, comme les scandales qui émaillent sa présidence. Sa sœur et secrétaire, Karina Milei, est soupçonnée d'avoir détourné des fonds destinés aux personnes âgées, handicapées. Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a commenté « Le peuple vient de te donner un ordre, gouverner pour le peuple ».
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordado de trébol y juncos
en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes vení recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos.
Caminito, caminito amigo. En Argentina es ese tango. Nous allons passer à un autre grand pays, la Colombie. Pour parler de quoi, Béatrice?
Oui,
pas d'armes.
Non, justement, Bogota suspend l'achat d'armes aux États-Unis après la rupture de leur alliance anti-drogue. Bogota riposte après la décision états-unienne de ne plus considérer le pays comme un allié dans la lutte contre le trafic de drogue, de cocaïne en particulier, dont la Colombie reste le premier producteur mondial. En représailles, la Colombie a décidé de ne plus acheter d'armes aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le 16 septembre le ministre colombien de l'Intérieur, Armando Benedetti. Washington estime que la Colombie n'a pas été un bon partenaire dans la lutte contre les cartels. Selon l'ONU, la production de cocaïne a bondi de 53% en 2023 pour atteindre 2600 tonnes. Malgré ce constat, les États-Unis laissent la porte ouverte à une révision de leur décision. La Colombie s'attendait à perdre sa certification depuis plusieurs semaines et avait préparé sa réponse. Le président Gustavo Petro avait déjà indiqué qu'il comptait suspendre les exportations d'armes provenant des États-Unis. Il souhaitait, disait-il, mettre fin à la dépendance des forces armées colombiennes aux aumônes et aux cadeaux états-uniens. Cette suspension de coopération risque de compliquer le combat de l'armée colombienne contre les multiples guérillas et cartels actifs sur son territoire. Le ministre de la Défense affirme pourtant avoir intensifié ses opérations, saisissant 700 tonnes de cocaïne et détruisant 4570 laboratoires clandestins depuis le début de l'année.
Thank you.
musique folklore de la Colombie avec un groupe créé en Angleterre par un pianiste colombien. Et nous allons parler du Brésil et les États-Unis, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, c'est dans la revue Espace Latinos. Dans le New York Times de cette semaine, le président brésilien Lula da Silva a rejeté un droit de douane de 50% imposé par les États-Unis sur les produits brésiliens, arguant que cette mesure était politique et illogique. Dans un article d'opinion publié dans le journal, Lula a assuré que son gouvernement était ouvert à toute négociation susceptible d'apporter des avantages mutuels. Mais la démocratie et la souveraineté au Brésil ne sont pas négociables, a-t-il déclaré. Lula a ajouté que l'augmentation des droits de douane était erronée et illogique, citant l'excédent de 410 milliards de dollars du commerce bilatéral de biens et services accumulé par les États-Unis au cours des 15 dernières années. Cette tribune témoigne de la préparation du Brésil à d'éventuelles sanctions supplémentaires pour donner suite à la décision de la Cour suprême, condamnation de Bolsonaro. Après la décision, le secrétaire d'État états-unien, Marco Rubio, a indiqué sur les réseaux sociaux que l'administration Trump réagirait en conséquence. Le ministère brésilien des Affaires étrangères a qualifié les propos de Rubio de menaces inappropriées qui n'intimideraient pas le gouvernement, affirmant que le pouvoir judiciaire brésilien était indépendant et que Bolsonaro avait bénéficié d'une procédure régulière. Bolsonaro avait brièvement quitté son domicile de Brasilia, où il est assigné à résidence, pour subir une intervention médicale dans un hôpital voisin. Escorté par la police, Bolsonaro s'est rendu à l'hôpital pour des interventions liées à des liaisons cutanées, une libération provisoire accordée par le juge Alexandre de Moraes.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, Congo no Congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, Americória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando vestido rendado. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de lua. Brasil, pra mim. Meu
Brasil, Brasil. Oh. Béatrice a commencé à danser là, dans le studio. Nous allons parler du Chili maintenant, n'est-ce pas, Béatrice?
Oui, c'est le début de la campagne électorale avant la présidentielle. 2 mois de meeting, de distribution de tracts et d'interventions dans les médias jusqu'à la présidentielle du 16 novembre. La campagne électorale a commencé le 17 septembre au Chili. Naila De Roisne, correspondante de RFI à Santiago, explique. Les Chiliens qui sont obligés de voter sous peine d'amende devront choisir entre 8 candidats. 2 d'entre eux sont en tête des sondages. La candidate de la gauche, la communiste Jeannette Jara, et José Antonio Kast, représentant de l'extrême droite. Jeannette Jara fait la course en tête. Issue d'une famille pauvre, elle s'est politisée très jeune, explique notre correspondant. Avant de lancer sa candidature à la présidentielle, elle était ministre du Travail sous l'actuel gouvernement. Elle a notamment fait approuver la semaine des 40 heures, l'augmentation du salaire minimum ou encore la difficile réforme des retraites. Ses adversaires ne manqueront pas de souligner qu'elle est communiste quand elle se présente avant tout comme la candidate de la gauche réunie. José Kast, la talonne dans les sondages. Les Chiliens le connaissent bien, il avait surpris en 2021 en se qualifiant pour le second tour avant de s'incliner face à l'actuel président Gabriel Boric. Élu député 2 fois, il a fondé le Parti républicain à l'extrême droite et n'a jamais caché son admiration pour Augusto Pinochet. Il a gagné en popularité auprès des Chiliens, s'inspirant de figures comme Trump, Bolsonaro ou encore Milei. Kast met l'accent sur les sujets de sécurité, de délinquance et du narcotrafic. Il promet des prisons de haute sécurité. Jeannette Jara prône plutôt la prévention et un état social fort. Sur l'immigration, en hausse dans le pays, les deux candidats s'opposent.
Oui, les problèmes encore de migration, que la droite a fait son sujet pour...
Cheval de bataille.
Oui. Alors, espérons que le Chili ne va pas tomber encore à l'extrême droite, comme dans d'autres pays de par le monde. Gracias a la vida, voilà la musique du Chili, interprétée par l'ensemble de l'Angleterre, on a parlé déjà, classico latino, et composé cette chanson par Violetta Parra. Et nous allons parler un peu de littérature et encore de Pinochet, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit de l'écrivain Philippe Sand aux éditions Albin Michel. Son livre s'intitule « 38 rue de Londres, de l'impunité Pinochet et le nazi de Patagonie ». L'avocat Philippe Sand livre l'incroyable récit des demandes d'extradition de deux monstres, le dictateur chilien Augusto Pinochet et le nazi allemand Walter Rohff. Des affaires révélant l'impunité dont ont joui les génocidaires. Le livre vient de paraître aux éditions Albin Michel. Dans la soirée du 16 octobre 1998, le dictateur chilien Augusto Pinochet est arrêté dans une clinique de Londres. Après un règne brutal marqué par des assassinats, des disparitions et des tortures dans le centre de détention et d'interrogatoire situé au 38 rue de Londres à Santiago, capitale du Chili, il est inculpé de crimes, de génocide, de torture, de terrorisme international et d'enlèvement. En 2006, âgé de 91 ans, il s'éteint à l'hôpital militaire de Santiago. En 1984, Walter Rohff, considéré comme l'un des plus grands criminels nazis, meurt dans son lit à Santiago, sans jamais avoir été extradé ni jugé. Responsable direct de la mort de près de 100 000 victimes, juives, par gazage dans des camions dont il a organisé la conception, il se réfugia après la guerre en Patagonie, protégé jusqu'à sa mort par les milieux militaires chiliens dont il fut très proche. Dans ce thriller juridique fascinant qui retrace l'histoire et le parcours croisé de deux criminels impitoyables du XXe siècle, Philippe Sand pose la question de l'impunité et de l'immunité. Une question d'une inquiétante actualité. Philippe Sand est un écrivain et avocat franco-britannique, professeur de droit et spécialiste de droit international.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago. Nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili. Comment croire,
oui, c'est vrai, on parle encore dans la chanson de Jean Ferrat, donc de ce Chili qui a été sous la dictature d'Augusto Pinochet. Mais nous allons passer à un autre sujet plus gai, avec un
pianiste
cubain,
Chucho Valdés, 83 ans,
voilà, oui,
qui dit avoir voulu cubaniser Mozart. Chucho Valdés n'en finit plus de célébrer sa longévité. Bob Dylan a inventé la tournée sans fin. Pour son exact contemporain, toutes les occasions sont bonnes pour faire la fiesta. Depuis 2024, il fête ainsi le cinquantenaire d'Irakere, un collectif révolutionnaire pour son syncrétisme mêlant au bouillonnement afro-cubain, l'effervescence du bebop et l'électricité du rock. À l'occasion, le joignent pour Irakere 50,
voilà,
deux compagnons de route historiques, le trompettiste Arturo Sandoval et le clarinettiste Paquito Rivera. Avec son armée de percussionnistes, conga, bongo, timbal, Irakere a pu être vu comme un cousin cubain de Santana. Chucho Valdés incarne cet art des métamorphoses propres au génie cubain. Son nom permet de fédérer autour de lui toutes les générations, puisque les concerts d'Irakere 50 associent également trois musiciens formant aujourd'hui son Royal Quartet. Un trio fort en rythme, puisqu'il comporte un percussionniste, un batteur et un contrebassiste. À l'anniversaire d'Irakere, le pianiste Chucho Valdés a ajouté un autre à son agenda, ses 60 ans de carrière. Ils indiquent que bien avant d'être adoubé par le public du jazz, il avait inauguré sa discographie par un jazz nocturno en 1964. Au conservatoire de La Havane, il aura appris harmonie, contrepoint et orchestration auprès de Léo Braumer, grand compositeur de pièces pour guitare. Au Tropicana, où il débute au sein de l'orchestre Sabor de Cuba, il apprend à jouer à peu près de tout et à improviser. Avec son quatuor moderne, Chucho Valdés continue à d'avancer.
Au rythme cubain avec Chucho Valdés, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.